se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
C'est monsieur maître Randall Schwerdorfer. Bonsoir maître, bonsoir, bonjour. 11h37, je peux encore vous dire bonjour. Avocat de Jonathan Daval, vous écrivez avec mon confrère, le journaliste d'investigation Frédéric Gilbert, ce livre dont le titre est très provocateur, « Je voulais qu'elle se taise, la tragédie amoureuse d'Alexis à Jonathan Daval ». Pour vous, c'est une tragédie amoureuse ?
Alors, moi, je pense que notre titre est moins provocateur que le sous-titre du livre des parents d'Alexia qui s'intitule « L'assassinat de notre fille, la vérité sur l'assassinat de notre fille » qui est une contre-vérité judiciaire puisque Jonathan n'a jamais été condamné pour assassinat mais pour meurtre. Donc ce titre, c'est simplement l'envie de recadrer le débat.
Ça fait quelle différence pour la victime ?
Mais ça fait une différence fondamentale.
Ah ouais,
il y a une vérité judiciaire. Oui, la victime, les victimes l'ont accepté.
Cas, hein.
Non, mais d'accord. Mais après, on peut dire tout et n'importe quoi, si vous voulez.
Bon.
Nous, on s'amuse pas à dire que l'accident de la mort d'Alexia. Là, ça ferait un scandale. Donc la victime peut tout dire, et nous, on n'a rien le droit de dire. Bon, si vous voulez, on peut commencer le débat comme ça.
La victime ne dit rien parce qu'elle est six pieds sous terre.
La victime est décédée, effectivement. Donc ça dépend de qui vous visez comme victime. Moi, je pense aux parents, je pense à la famille, et je pense qu'effectivement, ils ont accepté l'idée qu'il soit condamné pour meurtre. Et non pas pour assassinat, il n'y a pas eu d'appel, il faut respecter la vérité judiciaire, sinon on ne respecte plus rien.
C'est un livre pour réhabiliter Jonathan Daval ?
Absolument pas. Ce n'est pas un livre pour réhabiliter Jonathan Daval, c'est un livre déjà pour expliquer ce qui s'est réellement passé dans cette affaire, réellement passé dans ce couple extrêmement particulier, et sortir, si vous voulez, d'une vision manichéenne d'Alexia et de Jonathan, pour les montrer au plus proche de ce qu'ils ont été ensemble, très amoureux, pendant très longtemps, et puis d'un couple qui était devenu extrêmement toxique, avec une véritable conjugopathie qui a conduit au passage à l'acte de Jonathan. Donc ce n'est pas une réhabilitation, c'est une véritable explication, loin de l'hystérie médiatique du début, et on essaye d'aller au plus profond, sachant qu'on connaît très bien Jonathan Daval, et qu'on voulait aussi expliquer qui était Jonathan, tout au long du processus
vous
judiciaire.
Vous dites qu'il ne faut pas passer sous silence la personnalité de Jonathan Daval, mais vous avez aussi des mots assez sévères, le portrait est assez sévère concernant Alexia, puisque vous la présentez comme quelqu'un qui insulte publiquement Jonathan, qui le rabaisse, qui l'humilie, elle le traitait de connard, de branleur devant leur cercle d'amis, et quand on demandait comment il réagissait, un ami du couple qui s'appelle Mathieu répond, bah, il se tait, il regarde ses pieds.
Et j'y peux rien, c'est la réalité. Si la réalité est sévère, on doit le dire. Si la réalité est sévère vis-à-vis de Jonathan, on n'hésite pas à le dire. Ça n'émeut personne. La réalité est sévère aussi vis-à-vis d'Alexia. Et venir faire l'économie de cette réalité sévère, c'est pas moi qui invente ça. Hein. J'ai pas sorti ça ex nihilo du dossier. C'est un témoignage, c'est le meilleur ami du couple, le meilleur ami d'Alexia qui vient faire ce témoignage. On doit en parler. Si on n'en parle pas, eh bien écoutez, Alexia est une personne totalement immaculée, il n'y a strictement rien à dire sur elle, et Jonathan est quelqu'un d'abominable, manipulateur, et toute la responsabilité, entre parenthèses, du drame repose sur lui.
Ouais. Donc en résumé, Jonathan a le droit d'être coupable.
Il est coupable.
Il a le droit de défendre son droit.
Il n'y a pas un droit à être coupable, ça n'existe pas.
J'ai deux questions à vous poser. Déjà, une qui me turlupine souvent quand il y a des grandes affaires médiatiques comme ça. Vous êtes ce qu'on appelle un ténor du barreau, vous êtes un avocat reconnu, un pénaliste reconnu. Vous devez coûter très cher, j'imagine.
Qu'est-ce qui fait quelqu'un ou...
Non, mais qu'est-ce
vous laissez une carte.
Ouais, ça m'intéresse. Non, oui, parce que il y a un type qui s'appelle Mourad qui commence à m'énerver là. Fermons la parenthèse un peu morbide. Qu'est-ce qui vous a poussé à offrir au service, parce que j'imagine que vos services, Jonathan Daval n'a pas les moyens de s'offrir au service. Donc moi, je suis toujours très intéressé. Non. Donc je profite de la présence du fait que vous ayez décidé d'accepter de le défendre ou avoir proposé vos services. Comment ça s'est passé?
Mais sans vous donner de chiffres, parce que ce serait pas décent et puis c'est couvert par le secret.
Bien sûr.
Je ne suis pas intervenu gratuitement pour assurer la défense de Jonathan. La famille de Jonathan Daval a assumé les frais judiciaires de la défense de Jonathan Daval. Je ne fais pas d'aide juridictionnelle non plus, et je ne cours pas après les dossiers. Et si je n'avais pas été rémunéré à hauteur du travail qui a été fait par toute l'équipe pénale, puisque nous étions nombreux dans ce dossier-là, eh bien je ne serais pas intervenu.
Rémunération financière et médiatique.
Mais moi je veux faire attention, je vous demande simplement.
Vous ne travaillez pas gratuitement, moi non plus. Donc à partir de ce moment-là, j'ai aucun complexe par rapport à ça. Un avocat, ça se paye, et les services d'un avocat, ça se paye, même si un avocat reste, malgré qu'il soit payé, totalement indépendant. Et moi, j'ai toujours disposé de la défense de Jonathan comme je l'entendais, et ils ont toujours été très respectueux, que ce soit Jonathan ou sa famille, sur les choix de défense qui ont été faits.
L'autre chose qui est beaucoup plus générale, cette histoire passionne tout le monde en France.
Enfin, pourquoi ?
Voilà, la question c'est pourquoi ? Quels sont les éléments
On a essayé de l'expliquer dans le livre, mais il reste des mystères, si vous voulez. Pourquoi cette affaire, qui est une affaire, et on l'explique dans le livre, ordinaire, criminelle ordinaire, que personne ne s'offusque du terme, mais c'est la réalité. Pourquoi cette affaire-là a autant émergé ? Moi, je pense quand même que la joggeuse, c'était pas anodin. C'est tombé à une période où l'actualité était très creuse. Ce serait tombé en pleine période des Gilets jaunes, je pense qu'on n'aurait jamais entendu parler de l'affaire Daval. Et puis, très rapidement, il y a eu la marche blanche, beaucoup de gens, le visage d'Alexia aussi, oui. Je pense, était très parlant pour beaucoup de Français. Le veuf est pleuré aussi, effectivement.
Oui, enfin, quand même, les images de Jonathan Daval en pleurs, aux obsèques, c'est lui le coupable. Oui.
Surtout, c'est quelque chose de spectaculaire. C'est rare de voir l'assassin avant et d'apprendre après que c'est l'assassin.
Beaucoup de journalistes le savaient, ce que j'explique dans le livre, que Jonathan devait être arrêté en principe à la sortie de l'enterrement de son épouse, et beaucoup de journalistes ciblés sur Jonathan Daval parce que ça aurait fait un scoop extraordinaire. La presse aussi n'est pas avare de scoop et n'est pas avare.
Est-ce que MeToo et Balance ton port ont fait aussi de ce procès un procès un peu emblématique ?
Oui. Ça tombe à cette période-là, c'est complètement ignoré par l'avocat que je suis et l'entourage qui est le mien, parce qu'on n'est pas du tout sensible à MeToo et Balance ton port. On pense que c'est totalement résiduel et que ça n'aura pas plus d'écho que ça, alors qu'en fait ça va avoir un écho phénoménal dans la société. On va rentrer dans une sorte de dictature de la parole des parties civiles qui sont immédiatement victimes. Et je le dis aussi dans mon livre, il y a un déséquilibre qui se crée au niveau de la société. C'est pour ça que, et d'ailleurs j'ai été beaucoup contacté pour ça, on estime qu'il y a un moment, il faudra que se crée le pendant de tout ça qui s'appellerait, par exemple, Balance ta truie, qui offusquerait tout le monde, alors que Balance ton porc, ça n'offusque personne. Mmh. On est dans la normalité de la misandrie, si vous voulez.
Ça parasite les débats judiciaires ?
Oui, complètement. Complètement, parce qu'il y a une dictature de la parole. Aujourd'hui, vous avez une femme qui accuse, regardez l'affaire PPDA, on pointe du doigt, on accuse, et vous êtes déjà coupable.
Elles sont plus d'une, hein. Elles sont beaucoup.
Hein, et alors, parce qu'elles sont beaucoup, elles ont toutes raison, elles disent toute la vérité.
Non, celle qui accusait PPDA, je vous rappelle, la première accusation qui a été faite contre elle, c'est qu'elle voulait vendre son livre. Ensuite, elles sont 18 à vouloir vendre leur livre.
Mais il faut laisser faire la justice. Non, mais tu as déjà condamné.
Alors, c'est intéressant. Bah, c'est notre métier de commenter.
Commenter autant les relax et les acquittements que vous commentez les condamnations.
Le harcèlement, il est dans les deux sens, je suis d'accord.
Il est pas
dans le même sens. Très, très majoritaire. L'autre est un épiphénomène à côté, je veux dire.
Non, c'est pas un épiphénomène.
Il meurt.
Il y a aussi des hommes qui meurent, il y a aussi des hommes qui sont harcelés, il y a aussi des hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Faut arrêter ce délire de faire de la femme une victime constamment perpétuelle et de l'homme un prédateur constamment.
C'est l'immense majorité,
mais. On continue d'en parler, mais je note que vous dites que ces mouvements parasitent les débats judiciaires.
Parasitent, ils pèsent lourdement et ils ont fait rentrer la morale dans les tribunaux. Et ça, c'est dangereux.
On continue d'en parler avec Barbara Lefebvre, Mourad Boudjelal, Étienne Liebig.
Et on aura des questions.
A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi.
Les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Nous sommes avec l'avocat de Jonathan Daval qui co-signe « Je voulais qu'elle se taise ». Il revient sur ce qu'il appelle une tragédie amoureuse, la tragédie amoureuse d'Alexia et Jonathan Daval chez Hugo Doc. Barbara Lefebvre.
Oui, enfin, une question. Est-ce que vous pensez que justement, vous avez expliqué ce contexte, MeToo, etc. Est-ce que vous pensez que ça a pesé aussi dans la sanction, dans la peine ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été, à vos yeux, hein, au regard de votre connaissance du système judiciaire, est-ce que pour un crime équivalent, il aurait peut-être, dans un autre contexte, eu une peine moins élevée ?
Alors, pour être très clair, ce contexte-là, à cette époque-là du jugement, n'a pas pesé sur la peine. Parce qu'on a notamment eu le président Husson, qui présidait la cour d'assises, a tout fait pour que la cour d'assises reste hermétique à l'extérieur. Donc vraiment, il a été jugé dans les meilleures conditions qu'il soit. Par contre, ce qui est vrai, la société a changé. Il aurait été jugé il y a 5 ans, Jonathan Daval, la peine n'était pas la même. Les peines prononcées allaient entre 10 et 25 ans dans ce type d'affaires. on n'était plus sur une affaire à 18-20 ans, puisqu'on n'était pas dans l'assassinat, il n'y avait pas de préméditation, et on tombait plus sur des peines de cet ordre-là. Aujourd'hui, les peines ont été très largement aggravées. Certains présidents de cour d'assises s'en plaignent en disant il n'y a plus de débat avec les jurés. Les jurés, c'est tout de suite, on met 30 ans, peu importe, on met perpétuité, parce qu'il y a l'hystérisation du débat qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus de réflexion. Et on nous interdit la réflexion. Alors nous, à la cour d'assises de la Haute-Saône, on a pu avoir des réflexions. Réfléchir, expliquer, c'est pas justifier et cautionner. Et aux assises en Haute-Saône, ça a été possible. Devant les médias, c'est très souvent impossible, parce que dès que vous essayez d'expliquer, on vous dit, vous cautionnez, vous justifiez, vous validez ce qu'a fait Jonathan Daval, vous êtes un danger public, vous validez tous les féminicides, taisez-vous, circulez et laissez
et vous rappelez qu'à l'époque, les ministres se permettaient aussi de commenter, comme Marine Schiappa. D'ailleurs, vous citez Gilles-William Golnadel, merci, parce que c'était ici même sur RMC dans les Grandes Gueules, où il avait fait un peu la leçon à Marine Schiappa en disant qu'elle avait perdu une occasion de se taire. Un ministre en exercice n'a pas à s'immiscer dans cette affaire, encore moins par rapport aux propos de la défense.
Vous vous rendez compte, il est un des seuls à l'avoir dit. Ouais. Alors que c'est une violation constitutionnelle manifeste qu'a fait un secrétaire d'État, et il y a un ou deux chroniqueurs qui se sont permis de dire.
Il dit qu'il faut dire du mal à parler.
Moi, j'avais une question à vous poser. Il y a encore quelques années, on voit des téléfilms ou des films là-dessus. Il y avait un truc qui s'appelait le crime passionnel, en fait. Et en général, les types qui tuaient leur épouse ou leur maîtresse ou leur fiancée, ils s'en sortaient plutôt bien, parce que c'était considéré comme un crime passionnel. Donc les torts étaient
d'amour.
Partagés. Les torts étaient partagés. Et comme vous le dites à juste titre, la société a évolué, parce que dans tout, les féminicides, et Dieu sait si cette année il y en a beaucoup, il y en a encore eu un ce matin, dans tous les féminicides, quand on va chercher, il y a toujours une histoire d'amour, une histoire de déception amoureuse, une histoire de jalousie, elle a toujours été couchée avec machin, il y a toujours. Donc, Est-ce que c'est pas quand même extraordinaire que notre société ait évolué dans le sens où les hommes sont condamnés pour un crime ou un assassinat ou un meurtre qu'ils ont commis sans considération absolue, qu'ils s'expliquent par une histoire d'amour, parce qu'à ce moment-là, on condamne plus personne.
Non, mais ce que vous proposez peut être intéressant, c'est-à-dire que dès qu'il y a ce que vous appelez un féminicide, ce qui est une ânerie, parce que ce mot n'existe pas, c'est véhiculé par une multitude d'associations et de médias, alors que c'est
des termes droit.
Ça n'existe pas dans le dictionnaire non plus.
Ça n'existe pas dans le droit, en tout cas.
Voilà, en tout cas dans le droit, on connaît l'homicide ou l'uxoricide, si vous voulez. Mais vous proposez, en fait, dès qu'il y a un meurtre, il y a une peine automatique, il n'y a même pas besoin de juger, il a tué, on met perpétuité.
Et vous proposez quoi? Que le crime passionnel?
Non, moi je propose qu'il y ait un procès, je propose qu'on réfléchisse.
Toutes les histoires sont différentes.
Je propose qu'on se pose des questions, je propose qu'on se demande pourquoi. Eh ben, c'est très bien.
Donc, il n'y a plus de crimes passionnels, vous êtes d'accord?
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette dictature, cette doxa qui existe en disant les crimes passionnels sont tous des crimes possessionnels. Voilà. Tous commis par des hommes pervers narcissiques, et qu'il faut que ces gens-là prennent le maximum. Non, ça peut être aussi des gens. Jonathan Daval, ce n'est pas un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va être dépassé dans son histoire. Il doit être jugé pour son histoire.
Pourquoi il l'a tué?
Tout est dit dans le titre, je voulais qu'elle se taise. C'est ce que Jonathan Daval dira. À un moment où il se sent humilié, à un moment où il se sent insulté, il y a des paroles, il y a des coups qui sont échangés entre les deux. Et il dira, la question du juge d'instruction, mais pourquoi l'avez-vous frappé, pourquoi l'avez-vous étranglé? Il dira, je voulais qu'elle se taise, je n'en pouvais plus. Voilà. Et effectivement, on parle de toutes ces frustrations, on parle de tous ces sentiments qu'a eu Jonathan, mais ça tombe pas du ciel. Les insultes, on sait qu'elles ont existé. Alexia avait consulté un neurologue. Et dans sa consultation chez le neurologue, c'est au dossier, elle fait état du fait qu'il y a des violences au sein du couple sur le conjoint. Elle en parle dans ces périodes de crise. Et Jonathan le dira. Ça sort pas de mon imagination. J'ai pas dit ça. Et Jonathan n'a jamais dit ça. Non. Jonathan a simplement dit que dans les périodes de crise qu'elle avait, et son anorexie n'avait jamais été diagnostiquée, et je pense que c'est pas anodin, par rapport au traitement aussi qu'elle prenait, qui était un traitement lourd, et que c'était une femme qui mangeait extrêmement peu, voire qui se faisait vomir, puisqu'on n'a pas retrouvé dans le bol alimentaire le fameux repas raclette de la veille. On n'y a retrouvé que le dessert. Il manque donc le repas. Et le repas, il a dû passer aux toilettes et personne ne s'en est rendu compte. Et effectivement, Jonathan dit, dans ces périodes de crise, elle pouvait devenir violente. Et on a des messages où elle dit, j'ai peur, j'ai un goût ferreux dans la bouche, ça va pas, je suis angoissée. Et elle-même était inquiète par ses propres crises, où elle avait parfois des amnésies. Voilà.
Mourad Moudjelal.
Mais c'était pas un homme battu, non. Et elle n'était pas non plus une femme battue, comme dans beaucoup d'affaires appelées féminicides, ce sont des femmes battues, ce sont des femmes violentées, ce sont des femmes violentées aussi psychologiquement, c'est aussi grave que les violences physiques.
Et ça, c'était pas le cas
d'Alexia, ni le cas de
Jonathan. C'est pour ça qu'il faut, c'est important, c'est-à-dire que chaque histoire est différente.
C'est pour ça qu'on parle de tragédie amoureuse. Il y avait malgré tout beaucoup d'amour entre les deux.
Mourad Moudjelal.
Moi, j'ai l'impression que ce dossier, vous l'avez plaidé deux fois. Alors, c'est une des raisons du succès entre guillemets médiatique. Vous avez d'abord plaidé devant la France, avant de plaider devant une cour d'assises. Vous nous avez pris à témoin. Alors, je sais pas pourquoi.
J'ai répondu aux questions des journalistes.
Non, mais peut-être parce que vous aviez, je sais pas, il y avait peut-être une volonté derrière. Je sais pas, vous avez pris la France à témoin, comme si vous aviez besoin de le défendre mais devant les Français, et qu'ensuite on allait décider, nous, Français, s'il était coupable ou pas, ou s'il fallait le condamner. Il y a eu une véritable plaidoirie médiatique des deux côtés, mais face aux Français, ce qui était plutôt une grande première. Ouais, et ensuite, vous avez plaidé devant une cour d'assises. Alors, on s'est attrapé un petit peu tout à l'heure, gentiment, sur assassinat, meurtre. Moi, je voudrais vous dire, il a tué comment? Il a étranglé.
Il l'a étranglé.
Il n'y a pas de préméditation.
Non.
Mais un étranglement, ça dure un moment.
Oui.
Ça dure un moment. Et pendant ce moment, on peut revenir à la raison. Parce que quand on voit une personne étranglée, quand on voit une personne suffoquée, une personne qu'on est censé aimer, et on a le temps de réaliser ce qu'on est en train de faire, c'est pas une pulsion. Une pulsion, ça peut être un coup de feu. Ça dure une seconde, merde. Mais là, on prend le temps d'étrangler une personne, de la voir mourir, de la voir souffrir, de la voir
s'épuiser. C'est pour ça qu'il est
la deuxième chose. On prend aussi conscience de ce qu'on a fait, de façon à dissimuler son meurtre, en allant calciner le corps, en se disant, parce qu'il n'est pas allé au commissariat, en disant, voilà, c'était, la vie était devenue impossible, j'ai eu une pulsion et je l'ai tué. Il a réalisé, il a voulu le dissimuler, c'est-à-dire qu'il a voulu continuer à vivre normalement après, en dissimulant le corps et en faisant passer le meurtre.
On explique tous ces mécanismes dans le livre.
Sur la presse,
moi je n'ai pas convoqué la presse pendant la garde à vue. On avait 80 journalistes qui nous posaient des questions, on a répondu aux questions, et après les journalistes ont été surpris qu'on réponde aux questions. Nous posez pas de questions, et on répondra plus. C'est quand même assez délirant, cette société. Vous avez une presse qui nous sursollicite sur le plateau. Moi, j'ai considéré qu'on était légitime à parler, et d'ailleurs, j'ai été poursuivi pour ça. J'ai été relaxé pour ça, et on a considéré effectivement que j'en avais tout à fait le droit.
Vous avez été relaxé, tout à fait.
De tous les chefs de poursuite. Donc, si vous voulez, il y a un moment où, oui, la défense a le droit de parler, oui, le procureur a le droit de parler, oui, les parties civiles ont le droit de parler, et moi, ça ne m'offusque pas.
Sur le geste de Jonathan Daval,
c'est ce qu'on appelle un meurtre.
Oui.
C'est ce qu'on appelle un meurtre.
Et sur le fait qu'il va cacher son meurtre,
en fait. Eh bien, tout ça, on l'a expliqué aussi dans le livre, c'est ce qu'on a expliqué à la cour d'assises, ça ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Là, vous rentrez dans une morale, dans quelque chose qui n'est pas sanctionné par la loi. Et la cour d'assises ne juge que ce qui est sanctionné par la loi, le meurtre, et ne condamne que ce qui est sanctionné par la loi. Le fait d'avoir menti, c'est pas sanctionné par la loi. Le fait d'avoir trompé les parents d'Alexia, c'est pas sanctionné par la loi. Le fait d'avoir déplacé, caché le cadavre, c'est pas sanctionné par la loi. On est dans la morale. Et j'ai peur, malheureusement, qu'on concentre dans cette morale.
Ou pas,
ça n'existe plus, les circonstances atténuantes devant une cour d'assises.
Le fait de défendre ce geste-là, c'est de la morale.
Ça peut jouer.
Mais la cour d'assises aurait pu aller jusqu'à la peine de perpétuité qui était requise. Elle n'y a pas été parce qu'elle a pris en compte aussi la personnalité de Jonathan.
Il peut sortir quand, Jonathan Daval?
Je préfère pas en parler pour l'instant.
Comment va-t-il?
Écoutez, c'est quelqu'un qui est toujours en grande souffrance par rapport à ce qu'il a fait. Moi, je l'ai vu beaucoup évoluer. Il a beaucoup investi sa détention à Elsisheim. Ça se passe très bien, mais c'est quelqu'un qui reste. Je sais que, par exemple, le livre, il n'a pas pu le lire avant la date anniversaire de la mort d'Alexei. Il a attendu que la date soit passée pour pouvoir le lire.
Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus, je voulais qu'elle se taise. Je voudrais que tu te taises, Mourad. Je voudrais qu'elle se taise. La tragédie amoureuse d'Alexia Jonathan Daval chez Hugo Doc. Randall Schwerdorfer avec Frédéric Gilbert. On va se retrouver lundi à 9h avec Kaouter Ben Mohamed, notre Marseillaise, Stella Kamga, l'étudiante, Étienne Liebig, Charles Prats, le magistrat anti-fraude sociale qui fait tant parler, sera au cœur des grandes gueules à 11h. Je souhaite un joyeux anniversaire à Liliane, qui est une fidèle auditrice de Dinan dans les Côtes d'Armor.